190 millions de personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, consomment du cannabis sur la planète. Même Barack Obama a reconnu avoir fumé avec ses camarades de fac. Et ici, en France, 700 000 Françaises et Français fument chaque jour. En France, c'est 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais cet argent échappe à l'État. Et le deal de shit, c'est la France. Bonsoir Stéphanie Loridon.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Xavier Deleu.
Bonsoir.
Vous venez de publier un livre, Big Marijuana, quand le deal devient légal, c'est chez Hugo Doc. Ça fait suite à un documentaire qui est passé sur Arte début de mois et qu'on peut toujours voir en replay. C'est surtout le fruit d'une grande enquête internationale. La vision du cannabis est en train de changer et surtout, la raison pour laquelle vous êtes ici, la législation, a commencé par les lois américaines.
Absolument. Aux États-Unis, tout a commencé en 1996. Parce que dans ce pays, les États ont une procédure qui ressemble à un référendum et des citoyens peuvent mettre au vote des questions. Et donc en 1996, réussi à faire voter une loi légalisant le cannabis médical. Et donc ça, c'était la première étape. Ça a poursuivi pendant plusieurs années et aujourd'hui, vous avez 10 États dans lesquels à usage récréatif est illégal, c'est-à-dire un Américain sur 4 vit dans un état où il peut acheter du cannabis légalement.
Je ne vais pas tous les citer, il y a le Colorado, la Californie, le Nevada, l'Oregon, pour citer des grands. Et les premières conséquences que vous montrez de la légalisation du cannabis aux États-Unis, ça touche le Mexique.
Oui, alors ça c'est effectivement, c'est notre tournage là-bas qui nous a, qui nous a révélé. Effectivement, on s'est posé la question, quel est l'impact finalement? Parce que jusqu'ici, les fournisseurs de weed illégal aux États-Unis,
c'était
les
Mexicains. Voilà. Je dis ça pour les gens qui sont moins instruits que vous.
Voilà, donc effectivement, on est allé sur place, on est allé voir les gens qui travaillent pour cette chaîne, donc les gens qui cultivent, les gens qu'on appelle les accaparateurs, donc ces sortes de grossistes qui livrent au cartel. Et en fait, chez eux, c'est la crise. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à vendre leur herbe, ils sont en train d'essayer de trouver de l'herbe de meilleure qualité parce que celle qui faisait jusqu'ici, elle n'est pas terrible par rapport à celle du marché légal. Leur taux de THC produit qui défonce un peu plus, il faut aller sur le marché légal. Donc ils ne sont plus du tout compétitifs. Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué sur place, qu'on raconte dans le livre, c'est que se tourne vers un plan B. Alors le plan B, c'est d'aller vers d'autres drogues ou d'autres activités, parmi lesquelles l'héroïne qu'on retrouve en force dans des états comme le Michigan, par exemple.
Justement, une des craintes des opposants à la légalisation du cannabis, et vous le montrez, vous avez eu ça, c'est que les dealers sont abattus sur la cocaïne, sur l'héroïne, qui sont rentable, mais aussi beaucoup plus dangereuse.
Ben alors, les consommateurs ne sont pas les mêmes. Ça, c'est souvent des cris d'orfraie posés par les opposants. Mais en vérité, un consommateur de weed ne va pas se mettre demain à consommer de l'héroïne. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que quand on légalise, les trafiquants perdent. La tendance, c'est ça. Ils perdent le marché de la marijuana, donc du cannabis, donc ils vont faire d'autres activités. Ça veut dire que donc la légalisation ne fait pas disparaître les trafiquants, ne fait pas disparaître les cartels ou les mafias. Simplement, ils changent d'activité.
Alors, pour les pays où ça a été légalisé, comme les États-Unis, certains États ou le Canada, finance du pays de la dépénalisation.
Alors, par exemple, je vais prendre le cas du Colorado. Depuis qu'ils ont ouvert des magasins de cannabis légal, il y a 6 milliards de ventes de cannabis légales qui ont eu lieu en
6 milliards de ventes. Mais combien revient à l'État? Est-ce qu'avec ça, on peut faire des routes, construire des écoles ou améliorer des gymnases?
Au Colorado, ils ont fait un choix bien précis. Ils utilisent l'argent collecté à travers les impôts du cannabis pour financer l'éducation, rénover les écoles, construire de nouvelles écoles et bien sûr des actions de prévention.
Donc sur les 6 milliards de ventes, d'abord c'est 6 milliards qui échappent aux trafiquants. Et sur ces 6 milliards, il y en a 1 milliard qui est allé à l'État.
Alors, vous citez l'exemple du Canada où Justin Trudeau, le Premier ministre, avait légalisé le cannabis et où une grande part du gouvernement, enfin des gens de l'exécutif, se sont lancés dans le business du cannabis. Et on voit des entreprises totalement modernes à qui va profiter cette légalisation. On voit que beaucoup regrettent que ça profite notamment à des grands groupes d'alcool. Pardon de les citer, il y a Heineken, il y a Coors, il y en a d'autres qui se sont mis sur ce segment.
Alors là, oui, très clairement, ceux qui bénéficient de la légalisation, ce sont des grandes entreprises, soit au Canada des entreprises spécialisées, des producteurs autorisés de cannabis. Le numéro un mondial s'appelle Canopy. Son président est un homme absolument étonnant. On l'a rencontré. Il a une audace absolument phénoménale. Il va très vite. Il achète des boîtes de cannabis dans le monde entier. Il ouvre des installations partout. Aux États-Unis, c'est plus compliqué puisque c'est légal, la vente de cannabis est légale. Donc, vous ne pouvez pas coter une entreprise de cannabis sur la bourse américaine. Vous devez aller la coter au Canada, par exemple.
Et alors, comment ça se passe en France? Parce qu'on a l'impression qu'on est un tout petit peu à la traîne.
Oui, je crois qu'on aura du mal. Enfin, c'est pas pour demain.
Ah bon,
une cotation d'un groupe de cannabis qui rentrerait dans l'indice du CAC 40.
Non, mais avant même la cotation, déjà la légalisation. Je voudrais vous faire entendre un exemple. C'était pendant la campagne électorale. Nous sommes en 2016 et le candidat Emmanuel Macron s'était déclaré ouvert, sinon à la légalisation du cannabis, du moins à en discuter. On l'écoute.
Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Le sujet est ouvert et doit être considéré. Quand on regarde d'ailleurs l'incapacité qu'ont les magistrats de régler le problème d'un point de vue pénal, on voit que nous sommes dans un système très hypocrite.
Donc vous n'êtes pas contre ?
Donc je ne suis pas contre, tout à fait.
Il n'est pas contre, mais il n'est pas pour.
Et puis son gouvernement a pris une loi tout à fait inverse et totalement absurde.
Expliquez.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont cru, après l'avoir entendu, que la France se mettrait à légaliser, soit légalisée totalement, créer une filière, et pas du tout. En réalité, le gouvernement a décidé que celui qui est pris avec un joint dans la rue, c'est ce qu'on appelle la contraventionnalisation, se prend une amende de 200 euros. Ce qui est absolument nul d'un point de vue sanitaire, et ce qui aussi embête les policiers, ne résout aucun des problèmes posés par les lois françaises.
Et alors, vous dénoncez l'utilisation du cannabis faite par la police. Vous dites que c'est une aubaine pour les compteurs de la police nationale. Expliquez le principe.
C'est la politique du chiffre, en fait. Si vous détectez quelqu'un, si vous croisez quelqu'un qui a un joint sur lui, il y a cette suspicion et deux minutes après, vous l'arrêtez effectivement avec ce joint, finalement, c'est une affaire résolue dans l'instant. Donc, c'est extrêmement bien pour les chiffres de la police, pour les compteurs, pour ce qu'on appelle la politique du chiffre, et pour les chefs de la police qui touchent des primes.
Ouais.
Aux affaires résolues.
Et oui, taux de résolution de 100%.
100%.
Puisque s'il l'a sur lui, bim, il est pris.
Facile de jouer.
Vous dénoncez également un racisme latent. Vous dites que les jeunes des quartiers, comme les Noirs aux États-Unis,
Effectivement, je suis pas le seul à dire ça, mais effectivement, cette politique...
Non, mais pardonnez-moi, mais moi je pensais que benoîtement, c'est qu'il y a certaines populations qui fumaient plus que d'autres, et je l'ai appris dans votre livre, pas du tout.
Non, on fume de la même manière, simplement, il y a des quartiers dans lesquels on ne va pas chercher les fumeurs, on ne va pas les embêter, et il y a des quartiers dans lesquels on va les embêter. C'est ce que certaines associations dénoncent comme étant une politique discriminatoire, si vous voulez. C'est la politique du faciès, c'est la politique d'embêter plutôt des garçons que des filles, plutôt des garçons d'origine de famille étrangère que des gens qui ne le sont pas, et plutôt, d'ailleurs les chiffres montrent aussi, plutôt des gens qui ne sont pas diplômés que des gens qui sont diplômés, donc véritablement on cible toujours la même population, c'est une manière de garder le contrôle.
En même temps, dans le livre, vous donnez la raison, c'est que ces gens-là fument dehors, alors que les grands bourgeois du 6e arrondissement, pardon de le dire, fument chez eux.
Voilà.
J'ai rien contre le 16e. Hein.
Et parfois se font livrer à domicile et n'ont strictement aucun problème.
Le moins qu'on puisse dire, il y a eu le grand débat national, 1,5 million de contribution au grand débat. Nathalie Loredon, est-ce que vous avez entendu parler d'une seule contribution sur le cannabis et sa légalisation ? Parce que moi, non.
Non, plus.
Vous en avez écrite ? Pour la demander.
Non, on n'a pas eu le temps.
Non, en revanche, place de la République aujourd'hui, parce que c'était la marche mondiale, c'était la canaparade aujourd'hui.
Vous en venez.
Effectivement, j'en viens, et les gens disaient, nous sommes les gilets verts, en fait. D'ailleurs, éventuellement en voyant du cousinage avec les gilets jaunes, mais nous sommes les gilets verts, et eux, ils en ont des revendications, et probablement que s'il y avait un référendum en France, je crois que ça passerait.
Merci beaucoup Stéphanie Loridon, merci Xavier Deleu d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes les auteurs de Big Marijuana, quand le deal devient légal, c'est chez Hugo Doc, et votre documentaire sur Arte est à voir en replay.